Jean-Baptiste proclamait dans le désert, « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, j'ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Or, à cette époque, Jésus vint à Nazareth, ville de Galilée, et il se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et du ciel, une voix se fit entendre, « C'est toi, mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. »
Alléluia, 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 Jésus nous acclamons, alléluia, alléluia.
Avec la fête du baptême de Jésus, nous allons clore ce temps que nous appelons le temps de Noël, qui a commencé avec la naissance de Jésus. Nous avons vu les mages qui sont arrivés de partout pour reconnaître en Jésus ses fils des dieux qui devaient naître. Et ils reconnaissaient en lui le roi qui allait diriger les nations, à travers lequel Dieu allait établir sa justice. Et vous le savez, j'avais dit à Noël que Jésus, dans le livre d'Isaïe, il est présenté en deux phases. D'abord comme un enfant qui est né, mais deuxièmement comme un fils qui est donné. L'enfant naît de la chair, le fils est un don du Père. Et c'est ça tout le mystère de Noël, découvrir cette dimension de fils de Dieu dans l'enfant Jésus. Les gens, je vous disais, s'arrêtaient simplement à admirer l'enfant, à s'émerveiller devant l'enfant. Mais la fête de Noël, c'est le commencement de l'histoire du salut, parce qu'à travers cet enfant qui est né, Dieu lui-même vient habiter au milieu de son peuple. Pourquoi ? Pour le sauver. C'est le commencement de l'histoire du salut. Et le peuple doit découvrir dans cet enfant ce sauveur qui est venu au nom de Dieu pour réaliser le projet du salut de Dieu. Et nous voyons que dans tout le Nouveau Testament, le commencement de l'enfance de Jésus, Jésus n'est pas reconnu comme Dieu. Il n'est même pas reconnu comme fils de Dieu. Toutes les allusions qui sont faites à Jésus parlent de Joseph et de Marie. N'est-il pas le fils de Joseph? N'est-il pas le fils de Marie? Ses frères et ses sœurs, nous le connaissons. Les gens disent cela de Jésus. Il n'y a que la dimension de l'enfant. L'enfant qui est reconnu. Les gens n'arrivent pas encore à discerner la dimension du fils de Dieu. Quand Jésus va entrer au temple, ils iront avec ses parents à Jérusalem et avec un peu de distraction, il va s'éclipser. Les parents reviennent chez eux à Nazareth et ils réalisent que Jésus n'est pas là. Ils pensent qu'il est avec ses amis. Et après 3 jours, ils réalisent que Jésus n'est pas là. Ils retournent le chercher. Où est-ce qu'ils le trouvent? Dans le temple. Et Marie qui parle à Jésus dit, « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela, ton père et moi? Nous étions peinés. » Quelle est la réponse qu'il leur donne? Ne saviez-vous pas que je devais être dans la maison de mon père? Père, dans la maison de mon père. Jésus commence déjà à révéler son identité, même si les gens ne comprennent pas encore. Pour les gens, son père, c'était Joseph. Mais Jésus a déjà la conscience qu'il n'est pas simplement l'enfant, mais qu'il est le fils du Père de ciel. Voilà, c'est ça qu'il va essayer de révéler tout au long de son ministère. Si vous faites attention et que vous lisez attentivement le Nouveau Testament, vous allez remarquer que, en fait, Jésus vient changer la façon, la relation avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu est appelé Yahweh, il est appelé Seigneur, toujours. Alors que Jésus, dans le Nouveau Testament, il est le seul qui commence à appeler Dieu Père. Chaque fois qu'il va faire une prière, il va dire « Père, je te rends grâce. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Il va dire « Père », il va dire dans l'évangile de Jean en particulier, « Vous voulez voir le Père ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Il va tout le temps, le mot « Père » va revenir dans la bouche de Jésus alors qu'on ne le retrouve pas dans l'Ancien Testament. Quand le Juif parle de « Père », ils vont faire allusion à qui ? Abraham. Le Juif, quand il parle de Père, c'est Abraham. Jésus, quand il parle de Père, c'est Dieu. Et c'est la dimension qu'il va introduire dans le Nouveau Testament. De sorte que dans l'évangile de Matthieu, que nous connaissons, chapitre 5, quand les apôtres vont lui demander comment prier, qu'est-ce qu'il va leur dire ? Vous aussi, maintenant, quand vous voulez prier, n'oubliez pas, appelez Dieu Père. Père qui est aux cieux. Père. Il les introduit dans une nouvelle relation, non plus simplement des enfants. Un enfant est né, nous sommes nés de la chair, mais il les introduit dans la dimension des fils. Rappelez-vous dans Jean 1, verset 12, qu'est-ce que Jésus dit ? La parole de Dieu dit, il est venu comme la lumière du monde, mais les ciels l'ont rejeté. Mais à ceux qui l'ont accueilli, qu'est-ce qu'il en a fait ? Il leur a donné le pouvoir de devenir des fils et des filles de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés de la chair, ils ne sont pas des enfants, ils ne sont pas nés de la chair ni du sang, mais ils sont nés de Dieu. Ils sont fils parce qu'ils sont nés de Dieu. On est enfant parce qu'on est né de la chair. C'est ça la révélation que Jésus va introduire dans le Nouveau Testament. Vous n'êtes pas simplement les enfants. Le problème des enfants, c'est quoi ? Je vous ai toujours dit, un enfant, la Bible dit, a le même, en fait, comment je vais dire, le même conséquence, le même attribut qu'un esclave. Quelqu'un qui est un enfant, il est exactement, il a le même, ses droits sont limités comme ceux d'un esclave. C'est seulement le fils qui peut être héritier, c'est seulement le fils qui peut jouir juridiquement de ses droits. L'enfant, même s'il est riche, nous le savons même de par notre réalité humaine. Nous allons voir des enfants qui grandissent comme des stars, mais quand ils n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité, même s'ils sont riches, ils ne peuvent pas signer un contrat. Ils ont besoin de quelqu'un d'autre, un adulte, qui va le faire à leur place. Un enfant a le même statut qu'un esclave. C'est pour cela que Jésus, non seulement il nous accepte d'abord comme enfants de Dieu, parce que tous nous entrons d'abord dans cette première étape comme enfants, mais après un moment, il nous introduit dans la relation de fils et de fille de Dieu. Ça, c'est un don, c'est une grâce, comme nous dit et la première lecture, ça ne s'achète pas. C'est une grâce, comme nous dit la deuxième lecture aussi, ça ne s'achète pas. C'est simplement par amour pour Dieu, mais nous devons l'accepter, nous devons l'accueillir, même si c'est une grâce. À ceux qui l'ont accueilli, il leur a donné le pouvoir de devenir des fils et des filles de Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au baptême de Jésus ? Jusque-là, je vous ai dit comment Jésus, du point de vue humain, essaie de se manifester comme fils de Dieu. Mais dans le baptême, lors du baptême de Jésus, la différence c'est quoi ? Maintenant, c'est le Père lui-même du ciel qui va parler. La voix vient du ciel. Regardez, l'Esprit descend avec l'onction. La Trinité est déjà résumée dans le baptême de Jésus. La voix vient du ciel. Rappelons-nous que l'Esprit est celui qui a couvert Marie de son ombre. Quand l'ange a dit, l'Esprit viendra sur toi et tu enfanteras un fils. C'est le même Esprit qui descend pour attester que le Fils dont il était question, c'est celui-ci. Et la voix du Père retentit du ciel pour dire, le Fils dont il était question, c'est celui-ci. Il n'y en a pas d'autre. Le Fils dont il était question, c'est Jésus. C'est pour cela que vous voyez, pour la deuxième fois que la voix du Père va parler, c'est l'heure de la transfiguration. J'ai déjà donné cet enseignement dans les vidéos. Hein, je dis ceci, regardez ce qui va se passer pour montrer l'importance de ce que Jésus vient apporter. Lors de la transfiguration, Jésus sera au milieu de Élie et de Moïse. Moïse qui représente la loi et Élie qui représente le prophète. L'Ancien Testament est bâti sur la loi et les prophètes. Moïse et Élie. Et au milieu d'eux, la parole de Dieu dit, il y avait le Fils de Dieu. Lors de la transfiguration, Pierre, Jean et Jacques regardent. Et à un moment donné, ils sont comme dans un sommeil. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Jésus en train de s'entretenir avec Moïse et avec Élie. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu, ils entendent une voix venant du ciel en disant, celui-ci est mon fils. Ils sont trois, mais la voix parle au singulier. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Pas Moïse, pas Élie, mais le, c'est Jésus, le fils. Écoutez-le, celui qui est au milieu, au singulier. Ils sont à trois. Le message est clair. Maintenant, c'est le temps du Fils de Dieu. C'est le temps où il faut écouter Jésus. Et la preuve, c'est quoi? C'est que quand, à la fin, ils ouvrent les yeux, qu'est-ce qu'ils voient? Moïse disparaît, Élie disparaît. Celui qui reste, c'est qui? Le Fils. Le Fils vient incarner la totalité de la promesse de Dieu. On n'a plus besoin de Moïse, on n'a plus besoin d'Élie. Maintenant, le Fils en lui seul, il vient tout accomplir. C'est pour cela que c'est lui qu'il faut écouter. Et quand nous sommes en communion avec le Fils, nous devenons à notre tour aussi de fils de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. Jésus, le Fils de Dieu. En d'autres termes, la fête du baptême de Jésus, c'est encore une épiphanie, mais qui est faite d'en haut. La première épiphanie était en bas. Ce sont les hommes qui reconnaissaient Jésus comme fils de Dieu. Aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui reconnaît Jésus comme son propre fils et il demande au monde de l'écouter. Parce qu'en lui, il a mis tout son amour. Si nous voulons expérimenter l'amour de Dieu, nous devons le faire à travers Jésus. Si nous voulons expérimenter le salut de Dieu, nous devons le faire à travers Jésus. Si nous voulons expérimenter la paix de Dieu, nous devons le faire à travers Jésus. Si nous voulons expérimenter la joie, le bonheur de Dieu, nous devons le faire à travers Jésus. En lui, Dieu a mis tout, T-O-U-T, son amour, tout son amour, tout. Ça, c'est le grand mystère que Dieu nous révèle aujourd'hui. C'est pour cela, chers frères et sœurs, je ne cesse d'insister pour vous amener non seulement à connaître Jésus, mais à l'aimer dans votre vie personnelle, à l'aimer dans votre vie de couple, à l'aimer dans votre vie de famille. Quand vous avez Jésus, vous pouvez mourir et dire, je suis mort sauvé. Je vous l'ai dit, quand vous avez Jésus, vous pouvez mourir avec l'assurance que vous êtes déjà sauvé. Vous n'avez pas besoin d'attendre quelque chose d'autre. Vous n'avez pas besoin qu'on puisse célébrer le funérailles parce que vous êtes mort avec le Christ lui-même. Et c'est ça le grand mystère. Quand le vieillard Siméon a pris l'enfant Jésus, quand il a vu tout simplement, il a pris dans ses mains, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, tout ce que je rêvais dans ma vie, je l'ai vu, je peux mourir. C'est le sommet de tout ce qu'on peut désirer. C'est le sommet de tout ce qu'on peut attendre. C'est le sommet que tous les enfants de Dieu, le fils, les filles de Dieu, peuvent espérer de leur vivant ici sur la terre. Connaître Jésus, le rencontrer dans leur vie, l'aimer et mourir. Vous avez tout ce que Dieu peut donner à un enfant de Dieu quand vous avez Jésus. Je vous souhaite vraiment de grandir dans cette expérience, de sortir de cette dimension d'enfant de Dieu pour entrer dans la dimension de fils de Dieu, de sortir de la dimension du sang et de la chair pour entrer dans la dimension de Dieu et de l'Esprit, pour que vous puissiez vous aussi expérimenter ce que Jésus a fait. La parole de Dieu dit, ce que Jésus a fait, il a dit, vous aussi, vous pouvez le faire en mon nom. Mais quand nous devenons des fils et des filles de Dieu, nous pouvons réaliser la même chose que Jésus a réalisé à cause de tout ce qu'il a accompli pour nous sur la croix. C'est pour cela que le sang, l'eau, rend témoignage à Jésus, parce que ça nous rappelle que Jésus a tout accompli sur la croix. Nous n'avons qu'à recueillir ce qu'il a accompli. Alors que cette Eucharistie nous introduise dans une attitude d'action de grâce. Moi, j'aime Dieu parce que je dis vraiment, il est merveilleux. Imaginez, nous n'avons rien à payer pour ça. Rien à payer, juste l'accueillir, juste le reconnaître. Et nous devenons fils et filles de Dieu. Et nous avons le salut. Sans rien payer. Et c'est ça la foi. Alors, rendons grâce à Dieu pour l'amour que Dieu nous manifeste jour après jour. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu terroriste. Ce n'est pas un Dieu qui nous envoie aller tuer les gens. C'est un Dieu amour. En lui, j'ai mis tout mon amour. Et que nous puissions développer entre nous ce sentiment d'amour réciproque. Ça, c'est la qualité de fils et de fille de Dieu. La colère tue. La haine tue. Ça, c'est pour les enfants. Le fils et les filles de Dieu, ils entrent dans une autre dimension où il n'y a que la joie, l'amour, la paix. Parce que c'est ça, notre Dieu. C'est ça notre Dieu, chers frères et sœurs. Nous n'avons pas un Dieu terroriste. Nous refusons ce Dieu terroriste. Nous avons un Dieu qui aime, un Dieu amour. Il a mis tout son amour en Jésus. Et quand nous avons Jésus avec nous, nous devenons nous aussi des artisans d'amour, de paix, de joie et de bonheur que nous bâtissons autour de nous. Que cette Eucharistie nous aide vraiment à nous convaincre de cette grâce que Dieu nous donne parce que nous avons été baptisés en son nom. Amen.